Good job. Ooh. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
La créativité, l'intelligence émotionnelle, l'agilité, l'esprit critique, autant de compétences transverses qui sont aujourd'hui essentielles pour travailler efficacement et prendre du plaisir au travail. Comment les cultiver et en faire des forces dans votre vie pro ? Découvrez les conseils du spécialiste Jérôme Waro, coach certifié et consultant en efficacité professionnelle. Ce champion du monde de mind mapping est aussi le co-auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont Soft Skills, développer ses compétences comportementales, un enjeu pour sa carrière, paru aux éditions Dunod. Bonjour Jérôme.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu ?
Eh bien, super bien, merci. Et toi ?
Très bien, merci aussi. Le terme de soft skills est passé dans le langage courant, mais pour partir sur de bonnes bases et éviter des confusions, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce que tu peux nous donner une première définition ?
Les soft skills sont des compétences comportementales, c'est-à-dire qui sont propres au comportement d'un humain, contrairement par exemple à des compétences techniques qui se rattachent plutôt à des industries, des métiers. Et la particularité de ces compétences, c'est qu'elles sont aussi transversales. C'est-à-dire que si j'ai pu, par exemple, développer une certaine force de volonté à travers la course à pied, eh bien, je peux transposer cette force de volonté dans mon métier aujourd'hui. Donc, les soft skills, c'est ça. Ce sont des compétences que tous les humains peuvent développer, que l'intelligence artificielle ne peut pas encore faire et qui sont utiles en plein de situations et surtout qui ne sont pas techniques.
Tu parlais de l'intelligence artificielle. Alors justement, pour comprendre en quoi il est essentiel de cultiver ces soft skills, je vais te faire écouter un extrait d'une conférence de l'économiste Nicolas Bouzou qui s'intitule « Quelles compétences sont à valoriser aujourd'hui pour être performant demain ?»
Le travail ne disparaît jamais. Parce que le travail humain ne peut pas disparaître. À une condition, c'est que les humains soient suffisamment astucieux pour faire des choses différentes des machines. Et là, vous vous dites, il enfonce une porte ouverte, sauf que la vérité, c'est que dans vos entreprises, très souvent, tout est fait pour que les humains se comportent comme des machines. Et c'est là où, en effet, il peut y avoir un danger. Parce que si l'idée, c'est d'avoir des humains qui sont des intelligences artificielles en moins bien, faut prendre des intelligences artificielles. Et si c'est pour faire la même chose, faut pas prendre d'humains. Faut recruter des humains pour faire des choses humaines. C'est-à-dire pour faire des choses qui sont des choses différentes de la technologie. Et là, nous arrivons aux notions dont je parlais dans mon introduction. La tête, le cœur et la main.
Est-ce que les soft skills, c'est un peu nos super pouvoirs à nous face à l'intelligence artificielle ?
Tout à fait. C'est vrai que j'interviens pas mal sur ces sujets-là en entreprise, avec cette peur en fait de l'intelligence artificielle qui va remplacer nos métiers, remplacer les personnes en entreprise. Et en fait, oui, l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer des humains sur certaines tâches, notamment des tâches que l'on peut automatiser, des tâches que, à partir du moment où une intelligence artificielle va pouvoir le faire, va mieux le faire qu'un humain, parce qu'elle va pouvoir travailler sans être fatiguée, sans faire d'erreurs, etc. Donc oui, il y a cette peur. Mais comme le dit cet économiste, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains, mais va remplacer les humains sur des tâches. Et finalement, l'enjeu n'est pas de se dire pour ou contre l'intelligence artificielle, mais plutôt de se dire comment je peux intégrer ces nouveaux outils technologiques dans mon quotidien, parce que finalement, ce ne sont pas des humains qui vont être remplacés par des machines, ce seront des humains qui savent utiliser les intelligences artificielles, qui vont sûrement remplacer d'autres qui ne le veulent pas, qui résistent au changement. Donc c'est un peu ça, moi, ma lecture de cette situation, et que finalement, les soft skills, eh bien, ce sont toutes ces compétences qui vont nous aider à traverser ce changement. Souvent, je parle de trois types de métiers. Donc, il y a des métiers qui vont peut-être disparaître, en effet, parce que vont devenir obsolètes. On parle d'obsolescence des compétences par rapport peut-être à des outils technologiques comme l'intelligence artificielle. Des métiers qui vont émerger, notamment grâce à l'intelligence artificielle, avec des personnes qui vont devoir apprendre à gérer ces outils et en faire un métier. Ou sinon, pour les autres, ce sont des métiers mutants. Et dans les trois cas de figure, que ce soit les métiers émergents, les métiers disparaissant ou les métiers mutants, eh bien, ce seront les soft skills qui vont nous aider à pivoter, à nous adapter, parce que les soft skills, ce sont des compétences que je vais pouvoir transposer, quelle que soit ma situation professionnelle, quel que soit mon outil, et qui va m'accompagner dans cette transformation.
À l'échelle individuelle, qu'est-ce que ça peut m'apporter de cultiver mes soft skills ?
Les soft skills, pour moi, ce sont vraiment des ressources qui vont m'aider à être plus résilient, personnellement ou professionnellement, et aussi plus confiant. Alors, pourquoi plus confiant ? Parce que la confiance en soi, c'est quoi ? C'est de se sentir capable. À partir du moment où je me sens capable de faire face à une situation qui me challenge, alors j'aurai confiance en moi. Ce n'est pas une donnée absolue, confiance ou pas confiance, ou confiance absolue en tout. C'est généralement situationnel. Et le problème, quand nous évoluons dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, où on a de plus en plus d'inédits, de plus en plus d'inconnus, de plus en plus de situations qu'on n'aura jamais vécues auparavant, eh bien, on va être à chaque fois challengé sur des situations où on ne se sent pas encore capable. Et donc, on n'aura pas confiance en nous. Or, les soft skills, comme ce sont des ressources qui sont transposables, eh bien, je sais que je peux capitaliser là-dessus pour faire face à cet inédit, à faire face à cet inconnu, et donc puiser dans ces ressources pour me sentir un peu plus capable. Donc, plus de confiance en moi. Donc, je dirais que ça, c'est le premier enjeu, avoir plus confiance en soi dans un monde d'inconnu, d'imprévisibilité également. Et aussi pour la résilience, pourquoi ? Parce que si je sais que je peux capitaliser sur ces ressources comme la confiance en soi, ma créativité, ma gestion de mes émotions, mon intelligence relationnelle, bien je sais que j'ai à ma disposition toute une panoplie d'outils dans lesquels je pourrais piocher des bons outils pour la bonne situation, pour rebondir. Donc même si je fais face à une difficulté, même si je fais face aussi à un échec, bien, je sais que je peux rebondir, je peux encaisser le coup et rebondir parce que j'ai accès à ces outils qui sont à ma disposition à partir du moment où je les ai développés.
Est-ce que tu aurais une astuce à nous partager pour identifier les soft skills dans lesquels on est peut-être les meilleurs, nos forces ? Ce n'est pas forcément facile, on se dit pas « je suis créatif », donc on a parfois du mal à connaître les soft skills, en tout cas qui nous sont propres. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour y arriver ?
Il y a deux outils que j'aime beaucoup pour pouvoir mieux identifier ses forces en matière de soft skills. La première technique repose sur l'introspection et c'est tout simplement faire un listing de tous les plus grands défis auxquels nous avons dû faire face dans notre vie, à la fois des grandes réussites, à la fois des grandes difficultés, et d'identifier à travers des mots-clés des soft skills qui nous ont aidés. On va se rendre compte, normalement, qu'en faisant cette liste, eh bien, il y a des soft skills qui reviennent régulièrement. Si, par exemple, sur 20 événements, 10 fois l'autodiscipline est revenue, c'est que l'autodiscipline fait partie de mes forces parce que c'est quelque chose que je vais puiser naturellement en moi pour faire face à une difficulté. Donc, je trouve que cette technique est déjà une première approche. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, parfois, on n'est pas la meilleure personne pour identifier ses forces et qu'on ne va pas forcément trouver les mots. Donc, une deuxième technique qui consiste à se reposer sur l'intelligence collective, est très utile aussi, et par exemple, d'identifier entre 10 et 20 personnes de notre entourage, de cercles différents, anciens collègues, nouveaux collègues, famille, amis, etc. Donc, des personnes qui peuvent nous percevoir sous des angles différents, et de leur poser cette question toute simple. Quelles sont mes forces selon toi ? Et on va avoir plein de retours différents, et normalement, on devrait avoir, encore une fois, des éléments qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet exercice parce que, un, ça permet de mieux se connaître grâce aux autres, mais en plus, il y a aussi ce double effet qui se coule de booster l'estime de soi parce qu'on va recevoir plein de reconnaissance aussi de l'extérieur. C'est très agréable aussi. Donc, pour moi, ces deux méthodes fonctionnent très bien, sont très simples, accessibles à toutes et à tous pour pouvoir identifier ses forces en matière de soft skills.
On va tous prendre une feuille et aller voir tout le monde de notre entourage après le podcast. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des soft skills qui sont plus plébiscités que d'autres ou qui te semblent peut-être plus importantes ?
C'est vrai que quand je me suis lancé il y a un peu plus de 10 ans dans le domaine, on parlait de certaines soft skills. Aujourd'hui, avec la 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux enjeux, mais il y a quand même des fondamentaux qui reviennent souvent. Donc, si je devais faire, par exemple, un top 3 des compétences sur lesquelles miser aujourd'hui, je dirais que la première serait apprendre à apprendre, la capacité d'apprentissage. Parce que comme tout change, il y a de l'obsolescence de compétences et de connaissances, donc savoir oublier ou se détacher de l'ancien qui ne me sert plus, pour faire de la place à la nouveauté, et donc d'apprendre de la nouveauté. Et donc les techniques d'apprentissage aident beaucoup pour cela. Donc pour moi, c'est la première compétence sur laquelle miser selon moi. La deuxième, ce serait la créativité. C'est-à-dire que en fait, on est aujourd'hui dans des champs des possibles. Tout est possible aujourd'hui. Il faut savoir créer avec. Et la créativité aide à ça, à créer quelque chose de nouveau, que ce soit de totalement inédit ou souvent, la plupart du temps d'ailleurs, par assemblage, connexion d'idées pour créer quelque chose de nouveau, déjà grâce à l'existant. Donc la créativité qui permet d'ailleurs l'innovation et qui permet aussi le rebond dans le cas où nous faisons face à un moment de résilience. Et j'irai après, c'est quand même la gestion des émotions, parce que ce soit dans une situation où nous devons traverser un changement, naviguer dans l'inconnu, rebondir, eh bien à chaque fois c'est difficile, à chaque fois ça nous challenge, à chaque fois nous devons faire face à des émotions, et c'est pour cela que on peut voir aujourd'hui à travers des statistiques et des actualités qu'il y a vraiment cet enjeu de la santé mentale. Eh bien pour moi, la gestion des émotions est un outil qui permet de préserver, ou en tout cas d'entretenir une bonne santé mentale pour pouvoir naviguer plus sereinement dans tous ces changements.
Ça tombe très bien parce que j'avais prévu de faire un focus sur l'intelligence émotionnelle avec le chef Thierry Marx. Je vais te lire un extrait de son livre « La stratégie de la libellule » qui est sorti aux éditions Pocket et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Comme le samouraï qui médite avant de dégainer son sabre, nous devons réfléchir avant d'agir. Cet impératif de mettre de la distance entre nos émotions et nos actions est d'autant plus crucial dans un monde où le temps est, si je puis dire, une préoccupation de tous les instants. Si nous entretenons un rapport si biaisé avec le temps, c'est en grande partie parce que nous nous laissons soumettre par nos émotions. Or, une certaine pratique sportive se montre riche d'enseignements. Dans les arts martiaux, par exemple, on apprend tout de suite, même si l'enseignement est de longue haleine, à prendre de la distance vis-à-vis de toute émotion. Nous entendons ici émotion dans son acceptation la plus large, un fait qui met notre esprit à l'épreuve et voudrait nous contraindre à une réponse immédiate et pour ainsi dire irréfléchie. Or, nous savons bien qu'une réponse réflexe a très peu de chances d'être appropriée. Tout sport de combat consiste donc en cette nécessité de dompter le temps extérieur qui voudrait nous contraindre, mais plus encore ce temps intérieur auquel nous nous laissons trop souvent la possibilité de nous dépasser. Oui, à l'impulsion donc, mais au bon moment. Je m'inspire de ces écoles, je ne réponds jamais à mes petites ou grandes émotions si je ne me sens pas prêt à le faire. Attention, je ne dis pas que j'y parviens toujours, mais j'en fais ma conduite de vie. Est-ce que c'est une des clés pour cultiver l'intelligence émotionnelle de prendre le temps ?
Je trouve que ce passage est très inspirant. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Étant pratiquant d'arts martiaux depuis l'âge de 5 ans également, donc ça me parle beaucoup. Et les mots qui me viennent suite à cet extrait, c'est en effet sortir de la réaction pour passer plus à la réponse. C'est-à-dire en fonction de la situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on va être constamment stimulé pour être réactif. Voilà, on envoie un message, une notification, tac, 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 tout va vite. Et c'est vrai qu'on peut se prendre au jeu et tomber dans du FOMO, par exemple, la fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose, et on va être tout le temps réactif. Et c'est vrai que quand on est réactif, généralement, on n'apporte pas une réponse réfléchie, adaptée à la situation. Donc, la réaction, parfois peut être apporter un comportement qui n'est pas propice. Et je vais prendre un exemple très concret, surtout parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est souvent lié à l'intelligence relationnelle. Donc, si quelqu'un arrive avec de la colère, si je veux réagir à ça, je vais réagir avec de la colère. Et la colère va nourrir la colère. Donc, on va aller nulle part. Donc, ça, ce serait une réaction. Idéalement, si je veux prendre le temps, donc par exemple souffler, il y a de la colère. Je vais d'abord prendre conscience de ma colère. Donc, c'est ça la première étape de la gestion des émotions. C'est accueillir l'émotion, pas la mettre de côté. Accueillir, la nommer, respirer dedans et ensuite choisir. Qu'est-ce que je choisis comme comportement ? Est-ce que je choisis consciemment d'aller avec la colère et d'aller au combat, entre guillemets ? Donc, parfois, c'est nécessaire, mais c'est un choix. C'est une réponse choisie, intentionnelle. Ou est-ce que je choisis au contraire de « non, pour l'instant, ce n'est pas le moment ». Je vais y aller avec de l'apaisement parce que mon intention pour la situation, c'est l'apaisement, par exemple. Et là, on est dans de la gestion des émotions d'un point de vue relationnel. Et c'est vrai que l'ingrédient clé ici, comme tu le mentionnes, c'est le temps. Donc, c'est pas réagir tout de suite, c'est souffler, prendre le temps de fixer une intention, notamment par rapport à la situation, et ensuite choisir la réponse adaptée. Et là, en effet, pour moi, on est dans l'intelligence émotionnelle et qui, en effet, est très proche de la pratique des arts martiaux, même si dans les arts martiaux, on travaille beaucoup sur des réflexes, mais pas des réflexes réactifs, mais des réflexes qui sont des réponses travaillées, appropriées pour chaque situation.
Au-delà du temps, est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner pour cultiver les soft skills, alors de manière peut-être un peu générale, ou si tu veux te focaliser sur l'une d'entre elles ?
Déjà, de manière générale, moi, je me repose beaucoup sur ce qui est dit, ce qui est noté, ce qui a été travaillé dans l'étude du cerveau, la neuroscience et la neuroplasticité, c'est que ça prend du temps justement pour développer des choses, pour assimiler de nouvelles compétences, assimiler de nouvelles connaissances, mais pas n'importe comment. Et pour moi, le développement des soft skills repose sur ça également, c'est sur les habitudes. Si je veux améliorer ma capacité de concentration, eh bien ça va être beaucoup plus efficace et durable d'avoir une pratique, par exemple, de lecture quotidienne de 10 minutes tous les jours, pendant 30 jours, par exemple, plutôt que de me dire « je vais lire 2 livres ce week-end et après, c'est bon ». Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. J'aime bien reprendre l'analogie des muscles. Développer les soft skills, c'est comme développer un muscle. Pour développer un muscle, eh bien, on a besoin de répéter et de se donner le temps de développer le muscle. Et comme pour tout muscle, si on arrête de l'utiliser, eh bien, il s'atrophie. Et ben pour les soft skills, c'est pareil. Donc, pour moi, la stratégie idéale pour développer des soft skills, c'est vraiment de se créer des habitudes pour instaurer de la répétition et instaurer de la durabilité dans la pratique. Donc, identifier des soft skills que vous voulez travailler. Commencez par une, donc par exemple, concentration, et ensuite choisir une activité à renouveler de manière quotidienne pour en faire une habitude et tous les 30 jours, par exemple, rajouter une nouvelle soft skill et une nouvelle habitude, mais de la faire de manière organique, c'est-à-dire une seule soft skill à la fois, plutôt que de se dire « je vais travailler 10 soft skills d'un coup ». Et c'est là que bah, finalement, on ne va pas avoir suffisamment de discipline ou de force de volonté pour vraiment tenir le rythme.
Quand on est manager, est-ce qu'il y a, selon toi, une soft skill à travailler en particulier ? Laquelle et comment ?
Oh, il y en a plein quand on est manager, donc c'est difficile d'en choisir une. Mais je dirais que le manager, c'est un travail de leadership et je dirais que ça repose principalement sur l'intelligence relationnelle. Parce qu'il n'y a pas de manager sans équipe à manager. Ce serait vraiment de miser là-dessus. Donc, et bien entendu, derrière l'intelligence émotionnelle, derrière l'intelligence relationnelle, il y a l'écoute, l'empathie, il y a également la prise de décision, il y a plein de choses derrière tout cela, mais c'est au contact des autres que cela se travaille.
En 2050, à ton avis, la question des soft skills, elle sera comment ?
2050, ça paraît très loin, et en même temps, c'est que dans 25 ans, donc ça va arriver très vite. Et moi, j'aime à penser que ça sera toujours d'actualité, et au contraire, avec optimisme, qu'on aura réussi à atteindre un niveau de vie où, en effet, il y aura les machines, c'est inévitable, mais que avec une bonne régulation, une bonne éthique, on sait jusqu'où on peut utiliser les machines et comment les humains arrivent à trouver leur place dans tout cela et que finalement la société va être construite de telle manière que les humains se seront libérés de certaines tâches, de certains poids pour pouvoir faire plus de choses humaines en fait et de vraiment déléguer tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui n'est pas agréable pour vraiment se concentrer sur tout ce qui est humain par la suite. Et pour moi, 2050, ce serait top si on pouvait faire ça. Se dire, les machines font les trucs des machines et les humains font les trucs des humains. Un peu comme l'a présenté d'ailleurs l'économiste que tu as pu...
Nicolas Bouzou.
Plutôt justement.
Pour finir ce podcast, je demande toujours à mon invité de poser une question à mon invité suivant. Alors, il va falloir faire preuve de créativité. Je vais te faire déjà écouter la question de Jean-Luc Udry qui était venu nous parler, lui, d'optimisme.
Est-ce que il ou elle envisage d'introduire un optimisme opérationnel comme élément du succès de son entreprise, ou est-ce qu'ils considèrent toujours comme certains que c'est un luxe ?
Alors, l'optimisme au quotidien pour
toi. C'est marrant comme je suis invité, parce que je connais Jean-Luc.
Le monde est petit.
Bonjour Jean-Luc, merci beaucoup pour ta question. Pour moi, l'optimisme opérationnel, c'est indispensable, d'autant plus dans cette société aujourd'hui où, en effet, on est challengé. Et si on n'arrive pas à garder ce soupçon d'optimisme, à quoi bon, j'ai envie de dire ? Surtout quand on est constamment bombardé de messages négatifs, culpabilisants. Donc, l'optimisme, oui, et d'autant plus opérationnel pour qu'il soit pragmatique et que ce ne soit pas un optimisme béat en disant « Oh oui, je rêve ». Non, c'est vrai qu'on est aussi dans une société où on doit matérialiser les choses, que nous avons des contraintes et que cet optimisme doit être ancré dans de la réalité. Donc, pour moi, l'optimisme opérationnel, c'est vraiment une philosophie quotidienne qui permet de passer à l'action donc avec enthousiasme et détermination, mais avec de l'action.
Très bien. Quelle serait ta question pour mon prochain invité sur ton sujet à toi des soft skills ?
Comment allez-vous instaurer une culture des soft skills dans votre quotidien ?
Très bien. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci beaucoup, Fabienne.
Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.